journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pour qui sonne le glas, celui de Notre-Dame, résonnera pour Jacques Chirac tout à l'heure. Sonner à la corde pour cause d'incendie, ce sera l'un des moments forts de cette journée de deuil national. Nous serons aux Invalides dans un instant où des gens sont venus cette nuit encore se recueillir devant le cercueil de l'ancien président. C'est de là-bas qu'il partira pour l'église Saint-Sulpice. Cérémonie religieuse pour un Jacques Chirac catholique, mais versé sur toutes les grandes spiritualités. Cérémonie solennelle avec une centaine de dignitaires étrangers. Leur nom nous parle de ce qu'a été la politique étrangère du président défunt. Avec eux, Emmanuel Macron et les anciens présidents français, dont l'un sera dans ce studio dans 20 minutes.
Oui, François Hollande, invité du grand entretien de la matinale aujourd'hui. Intervenez, dialoguez avec lui. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Dans ce journal, nous serons également dans l'agglomération de Rouen où les écoles rouvrent leurs portes ce matin après l'incendie de l'usine Lubrizol jeudi dernier. On verra que les Français achètent plutôt leur premier logement à 32 ans au lieu de 38 auparavant. Et puis nous nous mettrons dans la peau d'un ouvrier constructeur de la Tour Eiffel à l'expo des 130 ans au pied de la Dame de Fer.
France Inter.
Il a retenti à la mort de De Gaulle, Pompidou et Mitterrand. Le bourdon de Notre-Dame de Paris, immobilisé depuis l'incendie de la cathédrale, sonnera bien ce matin vers 11h, au moment où le cercueil de Jacques Chirac quittera les Invalides en direction de Saint-Sulpice, comme un hommage de la grande blessée au président défunt. C'est une demande de l'Élysée qui requerra la force des bras d'Hervé Gouriou, campanaire expert du ministère de la Culture. Le sonneur de cloche sonnera le glas à l'ancienne, puisqu'il n'y a plus de système électrique à Notre-Dame.
Comme les cloches sont à l'arrêt depuis l'incendie d'avril dernier, on va donc utiliser une corde pour simplement tirer le battant du bourdon à un rythme plus lent pour donner la sonnerie du glas. On va utiliser une méthode manuelle à l'ancienne, on va dire. Si ma mémoire est bonne, la dernière fois qu'on a utilisé le bourdon manuellement, c'était pour sonner la libération de Paris. C'est un peu le lieu où s'est fait l'histoire de France. C'est un plaisir et un honneur de faire à côté. Je ne m'imaginais pas que j'aurais ce genre de prestation à conclure avec.
Hervé Gouriou qui sonnera le glas tout à l'heure, interrogé par Jean-Michel Naga. Cette journée de deuil national va commencer aux Invalides. Cérémonie familiale à 9h30 en la cathédrale Saint-Louis. Honneur militaire dans la cour d'honneur en présence de Jacques Chirac, d'Emmanuel Macron. Puis départ du convoi en direction de l'église Saint-Sulpice. Les portes des Invalides sont désormais fermées au public. Elles sont restées ouvertes jusqu'à 7h ce matin. Bonjour Rémi Brancato. Rémi Brancato, est-ce que vous êtes avec nous aux Invalides ?
Bonjour.
On a vu là-bas, Rémi, des milliers de personnes défiler toute la journée, toute la nuit, devant le cercueil de Jacques Chirac recouvert du drapeau tricolore. Il y avait du monde encore ce matin et certains vont rester pour assister au départ du convoi.
Oui, alors que les premières lueurs du jour apparaissent ici sur l'esplanade des Invalides qui a retrouvé un semblant de calme à l'orée de cette journée de deuil national. Les derniers visiteurs de la nuit sortent. Sébastien, costume cravate, est venu se recueillir sur le cercueil de l'ancien chef de l'État.
Ça s'est décidé très tôt ce matin, en fait, avant de venir travailler. Voilà, je pense que c'était l'occasion de venir simplement remercier le président Chirac pour son action. C'est la photo qui m'a interpellé, en fait. J'ai ressenti toute cette énergie, cette force de conviction. C'est un moment d'apaisement, de recueillement, très calme, pas de queue. La France appartient à ceux qui se lèvent tôt, peut-être.
Parmi les visiteurs matinaux comme lui, Édouard Philippe, le Premier ministre, passé il y a 1h30 discrètement à la sortie, Inès et son père Mokhtari hésitent à se rendre devant l'église Saint-Sulpice en fin de matinée pour la messe retransmise sur le parvis.
Ça me trotte dans la tête, je me demande si je veux pas y aller, effectivement. S'il veut y aller, oui, si j'irai avec lui.
Si tu veux, hein. J'ai mis le réveil à 4h et je me suis réveillé avant le réveil.
On est arrivé à 6h.
Il a fait l'armée en Algérie avec mon père, donc c'est comme si c'était mon père qui était là.
Dans 1h30 maintenant, une première cérémonie aura lieu ici en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, dans l'intimité familiale. L'ancien président recevra ensuite les honneurs militaires. Le cercueil quittera les Invalides à 11h à Saint-Sulpice. Le cortège sera accueilli par Emmanuel Macron. Le service solennel en hommage à Jacques Chirac débute à midi.
Voilà pour cette émotion populaire dont vous avez été, Rémi, le témoin toute la journée et toute la matinée. Ces heures d'attente hier pour se recueillir quelques secondes devant le cercueil de l'ancien président, des images qui ont profondément touché la famille Chirac. Claude Chirac s'est donc rendu aux Invalides hier soir à la tombée de la nuit pour remercier tous ceux qui sont venus saluer la mémoire de son père.
Dans ce moment un peu particulier, C'est vrai que quand on a vu, et ma mère aussi a vu à la télévision, tous ces gens et toute cette affection, et on s'est dit, allez, on va aller juste leur dire merci, en fait.
Et là, on va continuer.
Et c'est ça qu'on est en train de faire. C'est un moment très fort. De là où il est, je pense qu'il doit être extrêmement ému et heureux. Et ma mère est très, très réconfortée. Voilà, c'est juste bouleversant.
Claude et la famille Chirac réunis cet après-midi avec leurs proches dans l'intimité du cimetière du Montparnasse. Ce sera après la grande cérémonie religieuse et solennelle à l'église Saint-Sulpice. C'est l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, qui prononcera l'homélie en commençant par le De Profundis pour accompagner un Chirac catholique, mais pas des plus fervents, Yael Gauze, un Chirac largement ouvert aux autres spiritualités.
En 1987, quand on l'interroge sur l'au-delà, Jacques Chirac répond « Je suis de ceux qui nourrissent un espoir pour après la mort », croyant donc, marié à l'église à Bernadette Chaudron de Courcelles, mais à son ami Jean-Louis Debré, il confiait « Ma femme est une catholique pratiquante, j'espère qu'elle participe au salut de mon âme, qui en a bien besoin. Catholique, certes, mais surtout curieux de toutes les spiritualités, plus polythéiste que monothéiste », résume le journaliste Marc Tronchot, auteur d'un essai sur les présidents face à Dieu.
Ses grands-pères étaient instituteurs Kratzok, plutôt franc-maçon, anticléricaux à l'occasion et volontiers bouffeur de curé. Sa mère, en revanche, était une catholique fervente. Et elle arrivera d'ailleurs, c'était une performance, à faire faire à son fils un passage chez les scouts. Dieu, c'est un petit peu trop loin pour Jacques Chirac, qui croit plus en l'homme qu'il ne croit en Dieu.
Admirateur du Dalai Lama autant que de Jean-Paul II, qu'il accueillera comme maire de Paris, puis comme président en 1996.
La France, républicaine et laïque, la France de la Déclaration des droits de l'homme, respectueuse de tous les cultes et de leur libre expression, demeure fière de ses racines.
Racines tout court. Jacques Chirac mettra tout son poids dans la balance en 2004 pour empêcher que la notion de racine chrétienne figure dans le projet de constitution européenne.
Yael Gauze et en l'église Saint-Sulpice et toute la France politique, ou presque, qui a rendez-vous ce matin. Emmanuel Macron, les anciens présidents Giscard d'Estaing et François Hollande, qui sera votre invité à 8h20. Les présidents du Sénat, de l'Assemblée, des ministres, mais pas Marine Le Pen, dont la présence n'a pas été souhaitée par la famille Chirac. Et selon nos informations, ni Jean-Luc Mélenchon, ni aucun insoumis ne participeront non plus à la cérémonie. Il faut aussi avoir un œil sur la liste prestigieuse des chefs d'État et anciens chefs d'État qui font le déplacement pour Paris aujourd'hui. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Florence.
Est-ce qu'on peut lire avec cette liste ce qu'a été la politique étrangère de Jacques Chirac ?
Oui, car les personnalités étrangères attendues à Paris illustrent à la fois une politique et des relations personnelles. Ainsi, la présence de Vladimir Poutine et de Gerhard Schröder renvoie à l'axe franco-germano-russe de 2003, opposé à la guerre en Irak. Les trois dirigeants, réunis l'année suivante pour le 60e anniversaire du débarquement en Normandie, entretenaient depuis une complicité amicale. Même lien personnel de Jacques Chirac avec les Africains, on le sait. Ils seront nombreux ce matin, l'ex-président sénégalais Abdou Diouf, le malien Amadou Toumani Touré, mais aussi l'actuel numéro 1 congolais Denis Sassou Nguesso, un autocrate au pouvoir depuis deux décennies, des relations politiques dans la lignée de la France-Afrique héritée du gaullisme. Pour dire adieu à un Jacques Chirac tardivement mais définitivement converti à l'Europe, Jean-Claude Juncker représentera les institutions européennes. En revanche, c'est le président allemand Steinmeier qui viendra et non la chancelière Merkel. Et puis, conséquence des relations tendues avec les États-Unis au début des années 2000, pas d'officiel américain de haut niveau à la cérémonie, mais l'ancien président Clinton a fait le voyage. Les dirigeants chinois et japonais ne sont pas là, malgré la passion du président défunt pour la culture asiatique.
Bertrand Galichet, merci, de la rédaction internationale de Radio France, et pour vous faire vivre cette journée de deuil national, c'est Bruno Duvic qui prendra l'antenne dès 10h40 tout à l'heure, émission spéciale de la rédaction des Invalides à Saint-Sulpice. Nous serons partout.
France Inter, 8h10 à Rouen, Florence, et dans les communes de l'agglomération, les écoles vont rouvrir ce matin.
Elles étaient restées fermées jeudi et vendredi après l'incendie de l'usine Lubrizol qui a déversé sa fumée noire tombée en suie avec la pluie, particulièrement au nord de Rouen, où l'on rejoint Thibault Lefebvre. Bonjour Thibault.
Bonjour Florence.
Vous êtes Thibault à Biorel, devant l'école Georges Méliès, où l'on continue à nettoyer ce matin.
Oui, les derniers coups d'éponge, les derniers coups de balai pour la trentaine d'agents municipaux de Bihorel comme Richard. Il est sur le pont depuis 6 heures ce matin.
Les toiles, les sueurs, à l'eau claire, surtout pas de Karcher. Mes collègues, ils passent avec les éponges et moi, je rince à l'eau claire.
Est-ce que c'est propre ?
On sait pas. On peut pas vous dire. On sait pas du tout. Nous, on nettoie à l'eau claire, on rince et après, on sait pas si c'est propre. On sait pas du tout.
Bon, on a probablement été coupé avec Thibault Lefebvre en direct de Bihorel, commune.
Un gros point d'interrogation partagé évidemment par les premiers intéressés. L'école n'ouvre qu'à 8.
Lefebvre, Thibault Lefebvre, on vous remercie. On a une rupture de communication manifestement avec la commune de Bihorel et l'école Georges Méliès. Sachez qu'après les environs de Rouen, ce sont les agriculteurs d'une centaine de communes des Hauts-de-France qui vont devoir suspendre leurs récoltes et consigner leur lait, leur miel et leurs œufs en attendant des résultats d'analyse, essentiellement dans l'Oise, l'Aisne et la Somme, où la fumée a été poussée par les vents avant de retomber sur la végétation et les animaux. Édouard Philippe a promis hier la transparence totale sur les conséquences de cet incendie. C'est aujourd'hui que la Cour de justice de la République rendra son arrêt contre Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice, jugé pour avoir transmis des informations sur une enquête au député Thierry Solaire. Une peine d'un an de prison avec sursis a été requise contre lui vendredi. Les Français et leur chez-eux. Nous déménageons en moyenne 5 fois dans notre vie et nous sommes 40% à vouloir changer de logement dans les 5 ans. Voilà ce que nous apprend l'enquête commandée par le Conseil supérieur du notariat. France Inter y a eu accès avant sa publication dans la journée. Et le plus intéressant dans cette enquête, c'est l'âge du premier achat immobilier. Il a beaucoup baissé. Claire Chaudière, on achète en moyenne à 32 ans désormais.
L'âge moyen du premier achat d'une résidence principale était de 38 ans en 2017. Il passe à 32 ans. Un rajeunissement important. Première motivation, le désir même de devenir propriétaire dans un contexte de niveau élevé des loyers et de taux d'intérêt historiquement bas.
J'ai acheté mon appartement et je venais juste d'avoir 25 ans.
Exemple Clémence qui vient d'acheter son appartement à Clermont-Ferrand.
J'ai été en location. Je me suis très vite rendu compte que mes mensualités seraient équivalentes à ce loyer, mais pour une surface doublée. J'ai effectué donc un prêt sur 25 ans à un taux extrêmement réduit. Je n'ai pas mis du tout d'apport. On ne voit pas ça comme quelque chose qui va nous fixer à vie.
L'achat immobilier est tout de même considéré comme très angoissant pour 57% des sondés et les disparités territoriales liées au niveau des prix restent importantes, rappelle Maître Rosen Lebeller, membre du Conseil supérieur du notariat.
Dans ces jeunes qui achètent, il n'y en a que 28% qui habitent dans des grandes agglomérations. Alors que dans le reste de la France, il y a la capacité financière pour pouvoir acheter plus facilement.
Parmi les profils types d'achat, l'achat difficile ou inabordable arrive tout de même en tête à 26%. Il concerne de nombreuses personnes âgées, mais aussi les foyers dont le revenu est inférieur à 2300 euros par mois.
Et détail de cette enquête intéressante sur franceinter.fr. En Grèce, un incendie, des émeutes et 2 morts dans le camp de migrants surpeuplé de Moria sur l'île de Lesbos, le plus grand camp d'Europe qui accueille 13 000 personnes alors que les installations sont prévues pour 3 000 personnes. Quand le feu s'est déclaré hier, une foule en colère s'en est pris aux autorités accusées de tarder à venir leur porter secours. 2 mots de sport pour saluer la victoire de la Jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Pryce aux 100 mètres des mondiaux de Doha hier soir. C'est son 4e titre mondial auquel il faut ajouter 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et puis en rugby, Jacques Brunel change tout pour le 2e match des Bleus en Coupe du Monde, à commencer par son capitaine. C'est Louis Picamol qui officiera mercredi face aux États-Unis avec 11 joueurs qui n'étaient pas sur le terrain face à l'Argentine. Enfin, perché sur des poutres de fer à plusieurs dizaines de mètres d'altitude, c'était le quotidien des ouvriers de la Tour Eiffel. Eh bien, une exposition, l'exposition des 130 ans de la Dame de Fer, vous propose dès aujourd'hui de vous mettre dans la peau de ces ouvriers en passant sous ce grand dôme blanc dans ces 300 mètres carrés installés au pied de la Tour Eiffel pour l'occasion. Une exposition totalement immersive, Bastien Mutch.
En rentrant dans cette bulle géante, on fait un grand bond en arrière. Bienvenue dans le Paris de la fin du 19e siècle, plus précisément en 1889. L'exposition nous rappelle les grandes étapes de la construction de la Tour Eiffel, des premières oppositions au projet, au dangereux travail des ouvriers à plus de 300 mètres de haut, des conditions que vous pouvez vous-même expérimenter. Un atelier immersif propose par exemple de marcher sur une poutre de la tour et d'admirer le vide sur des écrans, à vos pieds. Les nouvelles technologies sont ainsi au service de la pédagogie. Odile Lasserre est la commissaire générale de l'exposition.
En fait, je pense que la Tour Eiffel, c'est devenu un symbole. Mais un symbole dont on ne mesure pas tous les éléments qui ont permis sa construction. Ça permet de mesurer l'importance des ingénieurs qui ont été au cœur de cet assemblage.
Et puis surtout, cette exposition paraît nécessaire tant les Français connaissent mal leur dame de fer. Patrick Branco-Ruiveau est le directeur général de la société d'exploitation de la Tour Eiffel.
On me demande souvent, est-ce que la Tour Eiffel bouge, est-ce qu'elle est instable? Donc l'idée, c'est un peu d'expliquer aux personnes, c'est important que la Tour Eiffel, ça n'est pas qu'un lieu où on vient prendre des photos au sommet et on repart. C'est beaucoup plus que cela, la Tour Eiffel.
Et puis l'exposition tente aussi d'imaginer ce que Gustave Eiffel aurait fait de sa tour en 2019 à coup de béton imprimé en 3D ou de construction en terre.
Alors on évitera si on est sujet au vertige,
ah oui.
Sinon sachez que l'entrée est gratuite au pied de la Tour Eiffel et que l'exposition dure jusqu'au 24 novembre.
Merci Florence Paracuelos.